Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com.
Welcome to a night of total terror. Night of the living dead. The dead who live on living flesh. The dead whose haunted souls hunt the living.
Au sommaire aujourd'hui, une spéciale sortie bouquin. Ouais, j'aime bien le mot bouquin, moi. Je n'ai pas sorti livre, je dis sortie bouquin, c'est comme ça. On va revenir aujourd'hui déjà sur deux nouvelles collections, à savoir une collection publiée par l'Armatan BD, une collection patrimoine. Hein, et on va en parler avec l'éditeur, Christophe Cassio-Horry. Et on va aussi revenir sur les deux premiers opus de cette collection, à savoir le premier tome de l'anthologie de Mongo Cissé, qui regroupe donc trois aventures de Matamata et Pili Pili, et puis Les gens bien de là-bas ou Les charmes discrets de la bourgeoisie camerounaise de Dev K. Moktoy, Antebé et Saint-Père Abiassi. Autre nouvelle collection dont nous allons parler en compagnie d'un éditeur, en l'occurrence Marc Falvo, la collection Compact Horror, donc nouvelle collection éditée par Faute de Frappe, qui proposera à la fois des rééditions de grands classiques, tels La Nuit des Morts Vivants de John A. Russo, qui ouvre la collection, des inédits jamais traduits en France et quelques créations original. Pour rester dans le domaine un peu gore, nous allons chroniquer également Bec et Ongle. Alors Bec au singulier, Ongle au pluriel, d'Élodie Denis, le nouveau volume de la collection Carnage, paru chez Zone 52 Éditions. Et enfin, nous resterons, si j'ose dire, dans la même veine, avec les trois nouveaux Gore des Alpes, à savoir La théologie expérimentale d'Antoine Conforti, You Back to Hell de Thomas Lécuyer et Un enfant qui mord de Jean-Pierre Andrevon, l'illustre Jean-Pierre Andrevon, avec qui nous auront le plaisir d'échanger au sujet donc de cet enfant qui mord. Voilà, c'est ainsi. L'équipe de Culture Prohibée, bon, remercie bien sûr les éditeurs qui se sont mis à notre disposition, les auteurs, donc Christophe Cassio-Horry, Marc Falvo et puis Jean-Pierre Andrevon. Et nous remercions également Virginie Robert et Philippe Battaglia ainsi que Jérémy Grima pour leur aide sur cette émission. Nous vous rappelons que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, disponible sur le site de l'éditeur TheExtasyOfFilm.com, sur celui des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr et chez tous les bons libraires. Pour causer lecture, je suis aujourd'hui accompagné de Thomas Roland, l'homme que l'on surnomme le loup-garou Picard, un lycanthrope qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglants écrits pour la revue Prime Cut dont il est le rédacteur en chef. Bonjour Thomas.
Salut GG, bien évidemment, bonjour à toutes nos lectrices et auditrices préférées.
Mon cher Thomas, toi qui t'adresses donc à toutes nos auditrices préférées, mais aussi à nos auditeurs, je le sais, tu souhaitais nous parler d'une nouvelle collection, la collection patrimoine de l'Armatan BD.
En effet, cela fait presque 10 ans maintenant, cette année, ça va faire 10 ans que je mets un point d'honneur à parler de la bande dessinée africaine, en particulier en évoquant la collection L'Armatan BD, qui met en avant de nombreux dessinateurs et scénaristes d'Afrique. L'Harmattan BD là, vient de lancer une nouvelle collection, la collection Patrimoine. Il s'agit de mettre en évidence des auteurs précurseurs de la bande dessinée en Afrique qui sont plus ou moins tombés dans l'oubli en rééditant leurs œuvres dans des volumes qui peuvent comprendre plusieurs albums ainsi qu'une introduction historico-biographique. Le premier tome est paru et dédié à un auteur originaire de la République démocratique du Congo, à l'époque le Zaïre sous l'ère Mobutu. Et cet auteur, c'est Mongo Cissé. Précurseur visionnaire du 9e art africain, disciple d'Hergé, Mongo Cissé est le premier BDiste africain à être publié en Europe au tout début des années 80. Il est né en 1948 et décède en 2008 à Kinshasa. Ainsi, cette première anthologie de Mongo Cissé comprend trois aventures de ses deux héros mythiques, Mata Mata et Pili Pili, qui forment un duo à la Laurel et Hardy. Les trois aventures s'intitulent « La médaille d'or »,« Le portefeuille » et « Le boy », respectivement publiées en 1974, 1978 et 1981. Ce sont des histoires trépidantes et comiques dans lesquelles il est beaucoup question d'argent et des conséquences qu'il peut avoir sur les relations entre les individus. D'ailleurs, la médaille d'or fait un peu penser au roman et au film de Sem Ben Ousmane, Le Mandat. Le style de Mongo Cissé, qui dessine en noir et blanc, est foisonnant et dynamique, avec des cases pleines de détails qui retranscrivent bien une ville comme Kinshasa et traduisent également les difficultés que rencontre la population au quotidien. Le ton général penche plutôt vers la générosité avec des personnages positifs et des résolutions bien heureuses. Au fur et à mesure des trois histoires qui sont proposées, on voit aussi le trait de Mongo Cissé s'affiner et devenir plus précis. Le deuxième volume de cette collection Patrimoine s'intitule « Les gens bien de là-bas » ou « Les charmes discrets de la bourgeoisie camerounaise ». Cette fois, le ton et le style sont bien différents et comme le titre l'indique, on quitte la RDC pour se rendre au Cameroun. Il s'agit de quatre histoires signées par Dave K. Moktoy, un comédien et humoriste qui adapte ici des pièces de théâtre. Et oui, des pièces de théâtre adaptées en BD. Un matériau plutôt original pour ce qui se révèle être avant tout une curiosité. Les trois premières histoires qui forment le recueil se suivent et sont axées sur la critique assez virulente de la bourgeoisie camerounaise. Derrière le titre ironique de l'homme bien de là-bas et de ses suites, l'auteur s'attaque violemment à la nouvelle bourgeoisie camerounaise de l'époque. De cette virulente dénonciation, on peut quand même trouver les traits un peu forcés et les situations à la limite de la caricature. La dernière histoire, le procès des pirates, relate le procès de l'auteur, Dave K. Moktoy, contre les pirates qui sévissaient alors au Cameroun en dupliquant illégalement sur cassette les disques vinyles des artistes, cassettes qu'ils revendaient de façon tout à fait illégale. Les quatre bandes dessinées qui forment ce recueil sont mises en image par deux dessinateurs différents, qui sont Antebe et Saint-Pierre Abiassi. Par conséquent, même s'ils ont un style très proche, les trois histoires qui se suivent manquent un peu d'unité. Ces bandes dessinées s'avèrent également sur le plan visuel bien plus épurées que celles de Mongo Cissé et avec un découpage quand même un peu moins dynamique. Pour évoquer nouvelle collection de l'Harmattan BD, la collection Patrimoine, nous avons pris contact avec Christophe Cassiori, scénariste de bande dessinée mais aussi directeur de collection de l'Harmattan BD.
Et donc tout de suite, Christophe Cassiori au micro de Culture Prohibée.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette nouvelle collection Patrimoine, sur sa création, sur le pourquoi de sa création ?
En fait, les raisons sont doubles. Hein. C'est dû correspond à une volonté de mettre à l'honneur le patrimoine graphique africain avec toutes ses richesses, de faire connaître les BD qui ont été publiés dans les années 70 et 80 et 90 à un plus large public, y compris un public européen. À la fois ça. Et en même temps, également, ça me semble être un prolongement d'une aventure qui a déjà commencé il y a environ 15 ans avec la création de l'Harmattan BD, qui, je crois, est en train progressivement de diminuer sa production et puis de passer à quelque chose de beaucoup plus historique.
En termes de format, parce que le format est vraiment différent de l'autre collection historique à Armand Tambédé, comment ce format s'est-il imposé ?
En fait, ce qu'on a trouvé comme album à remettre en valeur, ça nous ressemblait bien mieux que correspondre sur un format court, style roman graphique. Donc ça s'est imposé comme ça. Quoi. On ne voyait pas faire du 21-27, absolument pas, pour des raisons d'ordre technique en fait. Hein. Et on voulait que ça tienne bien dans la main.
Les deux premiers auteurs publiés, là, Mongo Cissé, qui est originaire de la République démocratique du Congo, et Defka Moktoy, qui est originaire du Cameroun, comment s'est porté le choix sur ces deux auteurs pour les deux premiers volumes ?
Ah, c'est une vieille histoire, ça correspond à ma vie en fait, à ma biographie, à mon histoire personnelle. En fait, Mongo Cissé, c'est l'un des grands auteurs des années 80, 70 et 80 en Afrique tout court. Donc il est vraiment très très connu dans son pays. C'est le prédécesseur de Barouti. Il est mort en 2008, il était né en 1948, donc il est mort assez jeune. Il était devenu chef d'agence de la Banque nationale du Congo. Et je l'avais rencontré à l'époque dans des circonstances rocambolesques, vraiment qui n'avaient rien à voir avec la BV. Et voilà. Et donc ça m'était resté en mémoire. Et comme j'avais fait la connaissance par la suite après sa mort de son frère José, qui était son encreur, qui avait participé à tous ses albums en tant qu'encreur. On a voulu remettre au devant de la scène certaines productions de Mongo qui nous rappelait beaucoup Tintin, quoi. C'était le maître de la nucléaire africaine, quoi. Voilà, donc c'est lié à mon histoire. C'était une sorte d'hommage, de clin d'œil à quelqu'un que j'ai bien connu, mais dans un autre contexte, qui n'avait rien à voir avec la BD, que je pourrais un jour raconter à vos auditeurs si ça vous intéresse. Et Dave K. Moktoy, c'est quelqu'un qui était très connu dans les années 70 et 80 au Cameroun. J'étais allé voir quand j'étais plus jeune, beaucoup plus jeune, même petit, j'étais allé voir ses stand-up, et ses pièces de théâtre. Ça m'était resté en mémoire et je m'étais souvenu d'une pièce de théâtre qui avait été adaptée en BD. Je l'avais achetée à l'époque, hein, ça coûtait 500 francs CFA. Et je l'avais encore dans mes archives et donc je l'ai recontacté pour savoir s'il y en avait d'autres. Et effectivement, il y a eu en tout 4 titres, 4 BD qui ont été édités et dont 3 étaient des adaptations de pièces de théâtre totalement inconnues par les jeunes actuels. Donc j'avais envie de remettre en mémoire ça également et ça correspondait à mon passé, quoi. Donc c'est vraiment lié à ma petite personne, hein, sans faire de forfanterie aucune. Les autres titres seront moins liés à mon passé.
Voilà. Il y a 3 titres qui se suivent dans Les gens bien de là-bas, de Dave K. Moktoy. En fait, et la suite n'a jamais été publiée, en fait ?
Non, jamais. Il y a en tout 4 titres. 3 sont des pièces de théâtre. Hein, okay. L'homme bien de là-bas, la dame bien de là-bas, puis Dîner de travail. Et jamais été publié pour la suite. Or, il a écrit environ 8 pièces. Et le quatrième album qui est dedans, c'est le procès des pirates. Et ça correspond à un procès qui a eu en 86 ou 87 à peu près, et qui était une volonté de Dave K. Moktoy de se défendre contre ceux qui l'avaient piraté. Donc en gros, tous ces sketchs étaient repris dans des cassettes qui étaient vendues sous le manteau par des entreprises qui avaient pignon sur rue, qui ignoraient totalement la notion de droit d'auteur. Il leur a fait un procès qu'il a gagné et ils ont été obligés de payer des amendes. Bah, donc il a voulu le raconter dans cette BD.
Et à quoi peut-on s'attendre pour les prochains volumes et à quelle fréquence aussi peut-on s'attendre à voir cette nouvelle collection paraître, Patrimoine ?
C'est compliqué à dire. C'est une très bonne question, mais c'est très compliqué à dire parce que ça correspond complètement à l'état de mes recherches, de mes fouilles. Donc, des opportunités que je peux trouver. C'est-à-dire que si je trouve encore quelques inédits, je pourrais les éditer. Le problème, c'est qu'il faut que j'en trouve, quoi. Donc, ça correspond à l'état de mes connaissances, de mes archives à moi, et puis de ce que je peux chercher ici et là. Donc, c'est difficile de vous dire, mais on va essayer de faire environ 2 à 3 titres par an.
Et donc, de toute façon, là, d'après ce que j'ai compris, il y aura un deuxième volume d'anthologie de Mongo Cissé.
Oui, très probablement. Et oui.
Donc, donc, vous disiez tout à l'heure que Mongo Cissé est lié à une partie de votre vie. Et en quoi, donc, est-ce lié à une partie de votre vie autre que la BD, alors ?
Ah ! En fait, je suis tombé en panne il y a très longtemps, il y a environ 20 ans, 2002. Je tombais en panne à côté de la ville de Boma. Boma avec un B, hein, pas avec un G. Boma, donc dans la province du Bas-Congo, la première capitale du Congo belge avant Kinshasa. Et j'ai dû aller à l'agence de la Banque nationale du Congo, qui était donc à côté, à environ 2-3 km. Je suis allé à pied pour tirer de l'argent, puisque j'avais un compte en banque à la BNC. Et le directeur d'agence m'a expliqué qu'il n'avait pas du tout d'argent ni de liquide. Il n'avait de liquide que quand l'entreprise forestière locale payait ses ouvriers. Donc c'était entre le 26 et le 29 ou 30 du mois. Entre-temps, il n'y avait pas du tout de monnaie qui circulait. Et donc, il ne pouvait pas trop m'aider. Par contre, si j'étais intéressé, il pouvait me montrer ses planches de BD sur lesquelles il travaillait depuis des années et qu'il refaisait et refaisait inlassablement. Et ce directeur d'agence de la Banque nationale du Congo à Boma, il s'appelait Mongo Cissé, François Hawaï Mongo Cissé. Voilà.
D'accord.
Et donc j'ai vu ces planches en amont. C'était une histoire qu'il racontait. Je l'ai trouvée très très bien faite, magnifiquement faite. Je trouvais que c'était une sorte de RG bis, quoi. Et effectivement, RG a été son maître. Il était son professeur. Donc ça reste en mémoire. Et quand il est mort, j'ai écrit une nécrologie un article dans la revue Agriculture. Et son frère m'a contacté. Puis depuis ça, on a publié un album dit qui s'appelait Mokanda Illusion en 2013 ou 2014. Et puis je me suis dit, si je commence une collection au patrimoine, eh ben, je le ferai avec un premier tome d'une anthologie de Mongo Cissé.
D'accord. Christophe Cassiori, merci. Et puis donc, on est impatient de découvrir la suite de cette collection Armatan BD Patrimoine.
Vous écoutez Culture Prohibée. Mon cher Thomas, merci pour ces quelques mots échangés avec Christophe Cassiori au sujet donc de cette nouvelle collection de chez l'Armatan BD, à savoir la collection Patrimoine, qui donc publie 2 premiers volumes, là, hein, Anthologie de Mongo Cissé et Les gens bien de là-bas ou Les charmes discrets de la bourgeoisie camerounaise, que nous vous invitons à lire. Moi, je vais te parler aussi d'une nouvelle collection, mon cher Thomas, une nouvelle collection d'ailleurs qui devrait te ravir, puisque tu es toi-même fan de la littérature un peu gore, voilà, puisque... Dans un passé récent, tu avais participé à l'ouvrage Gore, autopsie d'une collection. Je m'en souviens bien. Alors là, notre ami Marc Falvo, hein, qui avait ressorti cet ouvrage Gore, autopsie d'une collection, accompagné de ses plus beaux effets gore, hein, de quelques nouvelles, il lance une nouvelle collection, la collection Compact. Compact parce que c'est une collection
très petit format, Compact Horror. Et le premier volume, là, c'est un hommage en fait à la collection Gore, sauf que c'est une nouvelle traduction. C'est la novélisation de La Nuit des Morts Vivants de John A. Russo. Moi, je vais dire John Russo. Hein. Et John Russo, d'ailleurs, qui signe une préface dans l'ouvrage. On en reparlera dans l'entretien avec Marc Falvo, qui peut prêter une fois de plus à polémique pour les fans de Romero, pour la communauté qu'il y a autour de cette Nuit des Morts Vivants. La Nuit des Morts Vivants, ce premier volume, c'est ce qu'on appelle un patch-turner. Ça se lit très vite, les chapitres sont assez courts, c'est très incisif. Dans la grande tradition d'une certaine écriture, on va dire, comportementaliste à l'américaine, qui héritée du roman noir et de la hard-boiled school. Le roman est très efficace. Alors, bien entendu, si vous avez vu le film, vous n'aurez pas de surprise majeure. Hein. C'est vraiment une novélisation du film. Mais on peut apprécier le rythme qui est mis au livre par le biais de chapitres très courts, très incisifs, où ça charcle, comme dirait l'autre. Alors, dans cette collection, il va y avoir d'autres titres qui vont bientôt arriver, dont on parlera dans l'émission. Slugs, de John Hudson, qui était aussi paru dans la collection Gore, mais qui va avoir droit à un nouveau traitement. Wishmaster, de Christian Francis et Peter Atkins. Alors là, c'est... On est plus proche de l'inédit, et puis complètement inédit parce que c'est des fictions inédites. Il y aura quelque chose autour d'Amityville et quelque chose autour de la saga des Griffes de la Nuit. Je vous en dis pas plus parce qu'on va tout de suite écouter Marc Falvo, donc Marc Falvo, le patron des éditions Faute de Frappe. On va écouter Marc Falvo, donc qui nous parle de cette nouvelle collection Compact Horror. Mais pour commencer, déjà, on va demander à Marc Falvo, là, au micro de Culture Prohibée, comment on devient éditeur ?
Alors, comment on devient éditeur ? Ça, j'en sais rien dans l'absolu. Comment moi, je suis devenu éditeur ? J'ai d'abord été auteur. Voilà. J'ai d'abord été auteur publié, donc de romans, hein, des genres qui allaient du polar à l'horreur, en passant par le fantastique ou ce qu'on appelle la littérature. Voilà. Hein. Je ne sais pas pourquoi on appelle ça comme ça, d'ailleurs, mais bon, tant pis. Et en fait, j'ai eu moi-même 6 éditeurs. J'ai vu des choses qui m'ont plu, d'autres qui m'ont moins plu. Et à un moment, je me suis dit, j'ai eu envie de prendre mon indépendance, on va dire, comme un jeune qui habite chez ses parents, puis d'un coup il part de chez ses parents pour aller habiter tout seul. Là c'est un peu pareil en fait. Donc il y a 5 ans, voilà, parce que maintenant Faute de Frappe a 5 ans, je me suis dit je vais monter ma propre structure. Alors c'est vrai que j'aurais pu m'auto-éditer, tu vois, juste moi en tant qu'auteur, mais c'est pas ce que j'ai voulu monter une maison, voilà. Et 5 ans plus tard, je regrette pas.
La Faute de Frappe vient de lancer une nouvelle collection, cette collection compacte, hein, c'est la collection Compact Horror. Alors déjà, pourquoi tu lances cette nouvelle collection, et puis est-ce que tu peux la présenter aux auditrices et auditeurs de Culture Prohibée ?
Ça fait un moment qu'un label poche, l'idée d'un label poche chez Faute de Frappe me trotte dans la tête. Et je cherchais, plutôt que de simplement dire « on commence à faire du poche », je cherchais un angle, je cherchais une idée, en fait. Déjà un nom qui claque, compact. Alors pourquoi compact ? Parce que déjà, je trouve que ça sonne bien, et puis surtout parce que le format, alors tu as eu le premier volume dans les mains, donc peut-être tu l'as vu, c'est pas du poche traditionnel comme on fait maintenant, mais c'est même encore plus petit. C'est le poche, par exemple, de la collègue J'ai lu Épouvante dans les années 80, tu vois, par exemple. C'est vraiment du poche, petit poche, quoi. Vraiment compact. L'idée étant de proposer des bouquins bien remplis mais petits, et en fait chercher un angle. Alors l'horreur, évidemment, c'est un premier angle, parce que pour le coup, depuis Gore, depuis la réédition de Gore et le recueil Nos plus beaux effets Gore, le genre est en train de devenir la ligne éditoriale principale de Faute de Frappe. Donc voilà, ça paraissait logique que le premier label compact soit de l'horreur, même si ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres. Hein. Mais en fait, ce qui a vraiment cimenté le truc, c'est le lien avec le cinéma. C'est-à-dire que pour le coup, toi aussi, voilà, ton émission parle de cinéma, entre autres, beaucoup de choses, mais l'idée de proposer alors soit des novélisations de films ou des romans écrits à partir de franchises de films, donc de films d'horreur, c'est un peu ce qui a cimenté le projet, quoi. C'était au courant d'année dernière.
Et d'ailleurs, tu fais le lien à l'instant, tu reparlais de de cette réédition de Gore, Autopsie d'une collection, et puis également du recueil de nouvelles qui l'a accompagné. Et on peut faire aussi un autre lien avec la collection Gore, c'est que cette collection Compact Horror, elle s'ouvre avec la novélisation de La Nuit des Morts Vivants de Rousseau, alors qui est une novélisation, une nouvelle traduction, hein, qui est différente de celle qui était parue dans la collection Gore, qui était moins complète, on va dire, ça comme ça. Là, c'est une traduction plus complète.
Là, c'est une nouvelle traduction du texte intégral.
Voilà, et qui est, alors tu le disais, en plus dans un format... alors le texte va bien avec le format en plus, parce que c'est presque une collection de poches au carré, j'ai envie de dire. Hein, c'est un côté carré.
Ah, c'est complètement ça, ouais. Le poche au carré qui tient vraiment dans la poche, pour le coup. Ouais.
Et tu as cet aspect-là dans le bouquin de Rousseau, tu as le... parce que c'est un bouquin qui est écrit à la serpe, je veux dire, dans le sens où tu as des chapitres très courts, un côté page-turner, comme disent les anglo-saxons, qui calait bien, en fait.
Très très simple, très direct, en fait, ouais. Et c'est ça que oui, ça t'aura pas échappé, évidemment, que le premier volume de la collection Gore, c'était La Nuit des Morts Vivants, que le premier Compact Horror, c'est La Nuit des Morts Vivants, et qu'évidemment, ça n'est pas un hasard.
Voilà. Et tu promets, alors c'est pareil, on va retrouver des habitués de la collection Gore, mais pas que, il n'y a pas que John Rousseau qu'on va retrouver, parce qu'il va y avoir aussi Slugs de John Hudson, il y a Wishmaster de Christian Francis et Peter Atkins, et on va rester dans cet univers-là, puis après, alors il y a un certain Robert Slasher, je pense que c'est un pseudo, qui nous signe un Bloody Glove, et on va retrouver l'ami David Didlot pour Destination Amityville. C'est un premier programme déjà pas mal chargé, il y a pas mal de choses là-dedans.
Ah bah il y a déjà beaucoup de choses, mais je voulais aussi que ce soit, alors même si ça reste dans le genre de l'horreur, je veux que ce soit quand même assez varié, c'est-à-dire assez varié déjà dans ce qui est proposé, c'est-à-dire des novélisations, des rééditions qu'on connaît déjà, comme le Russo ou le Sean Hudson, ou des novélisations inédites jamais traduites en France, parce que Wishmaster ça a jamais été traduit en français jusque-là, et puis des créas, ce que moi j'appelle des créas originales. Bah voilà, je savais que David était ultra fan, voire même expert de la saga Amityville dans son ensemble, et puis je me suis dit, bah tiens, t'as pas envie d'en faire un. Donc là, pour le coup, c'est un nouveau. C'est pas une novélisation d'un des films, c'est vraiment une nouvelle histoire. Une histoire originale qui a même un lien avec la France. Hein. Voilà, j'en dis pas trop pour l'instant. Que David va nous faire. Et bon, bah, puis après, Bloody Glove hein, de Robert Slasher, ça c'est le gros délire du lot autour de la saga Freddy, quoi. Voilà.
D'accord. Bah, tout ça est très, comment dire, fait très envie. Alors, en plus, ce qui est assez sympa, là, j'aime bien dans ce premier tome, dans John Rousseau, là, dans La Nuit des Morts Vivants, c'est d'avoir une petite préface. Une préface, bon, qui va peut-être encore faire couler un peu d'encre chez les fans de Romero, hein, qui est une préface dans laquelle il donne une énième version de la création de La Nuit des Morts Vivants, parce qu'on sait que les deux co-créateurs, hein, que ce soit Romero et Rousseau,
ont pas toujours été d'accord.
Voilà.
Ben là, c'est pareil. Donc, c'est ce qu'on va retrouver dans tous les compacts. Dans tous les compacts horreur, tu vas avoir à chaque fois une préface, soit écrite par l'auteur du bouquin, soit écrite par quelqu'un qui est lié au contenu ou lié au film. Parce que, par exemple, tu vois, dans Wishmaster, le prochain qui sort donc au mois de mars, c'est une préface du réel, du film, de Robert Kurtzman, voilà, qui a écrit la préface. Mais là, pour le coup, pour La Nuit des Morts Vivants, je me disais, bon, l'occasion est trop belle, je vais demander à John Rousseau d'en écrire une. Et évidemment, voilà, il a voulu encore une fois... alors, soit raconter sa version, soit réécrire l'histoire. Après, voilà, chacun jugera. Hein, ouais. Mais en tout cas, voilà, moi, je voulais son point de vue encore actuel sur les choses, quoi. Ouais. Parce que pour lui, c'est encore actuel. Le film est toujours vivace. Ça fait toujours partie de son fonds de commerce. Et il est toujours en train de le défendre, voilà, un peu partout, dès qu'il peut, dès que l'occasion se présente, on va dire. C'est quand même assez beau parce qu'il a quand même 87 piges.
Et alors, comment tu vois l'avenir du coup de cette collection ? Là, on a parlé des prochains titres. Alors, je te demande pas forcément de nous donner des scoops, hein, mais l'avenir de cette collection Compact Horror. Et puis, tu parlais aussi de la possibilité qui est, je sais pas, pourquoi pas un Compact Polar, par exemple, des choses comme ça. Qui sait ce que l'avenir nous réserve ?
Ah bah qui sait ? Bah moi je le sais en fait.
Pour ça que je te pose la question.
Bah ouais, parce que quasiment tout le programme 2025 est bouclé en fait. et que je ne ferai pas de scoop, mais je peux te promettre qu'il va y avoir du bon. Voilà. Je peux te promettre qu'il va y avoir du bon, partant toujours a priori sur le même rythme, c'est-à-dire 5 bouquins dans l'année. Voilà. Toujours aux mêmes dates, janvier, mars, mai, septembre, novembre, avec la possibilité, ça va être lancé courant du mois, mais de s'abonner. En fait, s'abonner à Compact comme tu t'abonnes à un magazine. C'est-à-dire que tu prends tel numéro, 3 numéros, 6 numéros, voilà. Et puis en fait, à partir du moment où tu t'abonnes, tu reçois ceux de l'année et en fait, ça déborde sur l'année suivante, ça, par exemple. Garder ça, garder le rapport avec le Cinoche et puis garder toujours ce novélisation réédition qu'on connaît déjà ou novélisation inédite ou créa original. Mais si t'as envie que je te lâche des titres, c'est encore un petit peu tôt. Voilà. Après, par contre, ouais, en effet. Alors ça, pour le coup, je donne pas de date, mais j'ai envie de lancer Compact Thriller, en fait. Compact Thriller qui serait à la différence de Compact Horror qui est beaucoup plus assumé fantastique horror, là tu vois Compact Thriller on serait vraiment dans du thriller, alors ça pourrait aller du polar américain des années 70, je te cache pas que là je suis sur un truc assez mouse qui pourrait sortir l'année prochaine. Moi, si je lance Compact Thriller l'année prochaine, dans tous les cas ce sera pas cette année, ce sera forcément en 2020, pas avant 2025, mais ça pourrait aussi aller taper du côté de l'Italie, peut-être, pourquoi pas un giallo, par exemple, tu vois. Pourquoi pas ce genre de choses. Voilà, on serait plus dans soit dans du polar un peu sec, ou dans du giallo, ou dans du slasher, enfin, un truc un peu comme ça, quoi, tu vois. Pour te faire... Voilà, mais c'est encore un peu embryonnaire, je laisse l'idée maturer, voilà.
Bah, tout cela est un fort beau programme et bah, écoute Marc, je rappelle qu'on était en ligne avec Marc Falvaux, hein, le patron des éditions Faute de Frappe et qui donc est à l'origine de la collection Compact Horror au sujet de laquelle nous venons d'échanger. C'est un beau programme et puis donc tu seras toujours le bienvenu pour venir en parler dans l'émission.
Ah ben bah, t'inquiète que ouais, dès que tu me réinvites je viens.
Non, et bah, c'est parfait, c'est parfait.
Good shot. Okay, he's dead. Let's go get him. That's another one for the fire.
Vous écoutez Culture Prohibée spéciale sortie bouquin. Mon cher Thomas, après cette évocation de la collection Compact Horror qui fait bien envie, hein, mon cher Thomas, n'est-ce pas ?
Une nouvelle collection de romans fantastiques, moi, me fait toujours très envie de toute façon. Hein. Je suis un collectionneur de fantastiques en littérature, bande dessinée, etc. Chez moi, j'ai une bibliothèque énorme de ça. Donc oui, effectivement, ça m'intéresse.
Je pense que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd et que notre ami Marc Falvaux est ravi d'entendre ses propos. En tout cas, on vous invite à aller sur le site de Faute de Frappe, hein, Faute de Frappe, alors faute au singulier, fautedefrappe.fr, pour découvrir tout ce que propose cet éditeur, et en particulier donc cette collection Compact Horror. Moi je suis resté, c'est pareil, dans le domaine du roman gore, et dans la collection Carnage chez Zone 52 Éditions, avec Bec et Ongle, hein, alors c'est le numéro 14 de la collection Carnage, donc il a dépassé le fatidique numéro 13. Bec et Ongle, alors Bec au singulier, Ongle au pluriel, c'est un roman d'Élodie Denis. Alors Élodie Denis, elle est assez peu prolifique en fait, elle avait jusqu'ici signé... Elle est jeune aussi, hein, voilà, mais elle avait signé deux ouvrages, La philo des super-héros, coécrit avec Jonas Marie et publié aux éditions de L'Opportun, et Argentique, paru aux Moutons électriques. C'est donc une petite surprise, hein, mais bon, l'éditeur Jérémy Grima nous a habitués, hein, à nous faire des petites surprises en faisant venir des auteurs un peu à l'écart de l'univers initial de la collection. Et c'est donc une petite surprise qui fonctionne puisque c'est plutôt une bonne surprise en fait de voir cette autrice débarquer dans la collection Carnage. L'ouvrage, alors c'est vrai, s'aventure beaucoup moins du côté du gore et de la pornographie que d'autres opus de la collection. Il n'en demeure pas moins très bien écrit et particulièrement singulier. Ne serait-ce que pour son héroïne, qui au départ est une jeune femme, hein, une jeune Singapourienne issue de la bourgeoisie, dans le Singapour d'il y a une dizaine d'années, et qui en fait devient, par le biais d'une malédiction, une créature, un être hybride à l'ouïe très développé, qui se présente sous l'aspect de cette jeune Singapourienne Lan, mais dont les oreilles en fait seraient surplombées par des ailes. Voilà, ça donne une idée un peu particulière, sachant qu'elle porte des lunettes en forme de cœur, qu'elle adore manger du chewing-gum, ça vous donne une idée de cette créature hybride. Donc, je vous l'ai dit, hein, fille de la bourgeoisie, Lan, à qui le père et le frère veulent extorquer un terrain légué par sa défunte maman qui s'est suicidée alors qu'elle n'était qu'une enfant. Devenue une jeune femme, elle déjoue la supercherie grâce à un autre de ses super-pouvoirs, qui fait que quand elle ordonne, les enfants exécutent, dans tous les sens du terme. Voilà. Si vous voulez découvrir, en fait, plutôt un beau portrait de jeune femme, en fait, une jeune femme insolente. D'ailleurs, l'un des tournants du livre, hein, consiste en la découverte d'une missive et fait partie assez étonnamment des pages les plus émouvantes de cette collection, qui, il est vrai, en compte très peu, hein, en même temps. Hein, on n'est pas trop dans l'émotion, généralement, dans la collection Carnage. Et la description d'un Singapour cauchemardesque de 2012 est assez prenante. En plus, l'autrice a vécu réellement là-bas, donc elle s'y est rendue, donc ça ajoute une pointe de véracité. Donc, pour tout cela, vous pouvez vous jeter sur Bec et Ongle, hein, qui est un ouvrage donc singulier au sein de cette collection Carnage, publié par Zone 52 Éditions, dans lequel Élodie Denis, d'ailleurs, cite... Il y a un jeu des citations souvent dans cette collection. Là, elle ne cite qu'un seul autre volume de la collection, Goanna Massacre de Thierry Poncet. Un autre opus pour le moins donc singulier de cette collection, qui fait en quelque sorte un petit diptyque avec celui-là. Quoi. Voilà. On vous propose de lire donc Bec et Ongle d'Élodie Denis, publié par Zone 52 Éditions dans la collection Carnage. C'est une proposition qui devrait vous enthousiasmer. Mais il n'y a pas que Singapour dans la vie. Il y a aussi les Alpes et la Suisse, mon cher Thomas.
Oui, prenons un peu de hauteur en allant faire un petit tour dans les Alpes. Mais je crois, il me semble que le personnage du bouquin que tu viens de chroniquer est tout à fait apte à prendre de la hauteur, justement.
Et effectivement, la jeune Lan, avec ses oreilles, elle, un peu en enfant illégitime de Dumbo, effectivement, elle est souvent en train de dominer la situation.
Donc, vous l'avez compris, nous allons parler de la collection Gore des Alpes. Gore des Alpes qui sort trois nouveaux titres, une excellente fournée, on peut le dire, avec pour commencer la théologie expérimentale. Dans ce roman, Antoine Conforti met en scène un cousin suisse de Nicolas Emmerich, l'inquisiteur immortalisé par Valerio Evangelisti dans une série de romans fantastiques. Au XVIIIe siècle, animé par la même mauvaise foi que son confrère italien, le docteur Réville, théologien amateur du physique, devient professeur dans un trou perdu du Valais. L'indigence de la population le frustre et il invente alors une machine qui lui permet de punir les pécheurs. Du moins, le croit-il. Avec ironie, Antoine Conforti dresse un portrait sans concession d'un homme d'église qui ne doute pas. Il tourne en ridicule les ecclésiastiques avec un humour parfois scatologique au cours de chapitres peu ragoûtants. Les personnages hauts et en couleur défilent et l'auteur de dénoncer le mépris de classe de son personnage principal pour la plèbe, prétexte à une galerie de miséreux digne du final de La Sentinelle des Maudits, le film de Michael Winner, notamment durant quelques passages égrillards. Le style ne se fait pourtant jamais gouailleur autrement que dans la bouche de certains personnages, tout en se montrant caustique. Cependant, au fur et à mesure que l'intrigue avance, alors que se confrontent superstition et foi religieuse, le ton se durcit, la violence et les descriptions des sévices laissant peu de place à l'humour. Sous ses allures de roman plein d'une narquoise dérision, la théologie expérimentale épouse la forme d'une sévère charge anticléricale qui dénonce également le rapport de classe hypocritement caché sous une volonté d'ériger le bas-peuple. Mais les dernières lignes vont bien plus loin que ce simple postulat, car il s'agit bien d'un livre particulièrement nihiliste sur les véritables et sombres motivations de l'âme humaine. Pour résumer le credo du docteur Réville, qui pense servir l'œuvre de Dieu en dévoilant les péchés des uns des autres, ne dit-on pas que l'enfer est pavé de bonnes intentions ? L'enfer n'est pas loin non plus dans U Back to Hell de Thomas L'Écuyer, qui reprend le mythe du pacte avec le diable, non pas celui de Faust, mais celui qu'aura signé le musicien Robert Johnson dans les années 30. Oui, U Back to Hell est un roman rock et gore qui suit le parcours d'un groupe qui a bien du mal à se faire un nom et une place dans le milieu de la musique. Ils vont de scènes minables qui brillent par un public absent en concerts annulés. Hervé, le leader du groupe, en pleine crise de la quarantaine, a l'impression de ne pas évoluer dans sa vie et alors lui vient l'idée de pactiser avec le diable pour enfin rencontrer le succès. Cela, bien sûr, ne sera pas sans conséquences. Hervé a-t-il vraiment fait un pacte avec le diable ou est-il en train de devenir fou ? Comme pourrait l'indiquer cette silhouette et qui se fait appeler Calfou, esprit du côté sombre de la religion vaudou. Sous une plume alerte, Thomas L'Écuyer réussit à dessiner un méchant digne de ce nom. Immense silhouette aux membres effilés, vêtue d'un long manteau et d'un chapeau sudiste. Et c'est cette ombre qui hante les pages du roman et le personnage principal. Au-delà de son intrigue fantastique, l'auteur évoque le mal-être, la dépression et la solitude d'un homme qui pense n'avoir rien fait de sa vie. Il décortique alors le mécanisme qui mène à la violence, car évidemment, des jeunes femmes sont assassinées de façon violente et la conclusion s'avère des plus sanglantes. Si l'hémoglobine y est présente, avec un poil de sexe, le roman laisse cependant peu de place à l'humour et, comme la théologie expérimentale, se termine sur une note sombre.
Vous écoutez Culture Prohibée.
Après la théologie expérimentale et U Back to Hell, j'ai gardé le meilleur pour la fin, le meilleur pour la fin de cette excellente livraison de Gore des Alpes avec Un enfant qui mord, un roman qui marque le retour de Jean-Pierre Andrevon à ses débuts, ceux de la collection Angoisse du fleuve noir. Alors parti en tournage qu'une équipe de télévision, Yann Flandrin s'égare une nuit dans un petit village dans les montagnes aux alentours de Grenoble. Il y rencontre des habitants étranges avant de pouvoir se réfugier dans un petit hôtel qui ne paye pas de mine. Dans la nuit, il reçoit la visite d'une belle blonde. Jean-Pierre Andrevon sait décrire des ambiances obscures situées dans des coins reculés de la campagne française. La meilleure partie du livre reste celle qui suit son personnage principal errer en pleine nuit dans un village qui semble abandonné. L'auteur arrive à rendre menaçant, obscur, quelques maisons et rues désertes, juste par la description d'éléments, tout ce qu'il y a de plus réaliste, mais qui, sous sa plume, prennent une dimension fantastique. Il arrive à faire naître la peur par des détails tout simples ou par l'apparition de personnages mutiques au regard aiguisé, par la description d'un mobilier désuet, de détails anachroniques. Jean-Pierre Andrevon aime les villages fantômes, comme on a pu le lire dans certains de ses précédents romans fantastiques. La suite du roman, quand, quelques mois plus tard, le jeune vidéaste qui vit seul dans une maison retirée, toujours dans les montagnes aux alentours de Grenoble, reçoit la visite de la mystérieuse jeune femme blonde, un bébé dans les bras, se montre plus conventionnel, sans toutefois se départir de cette part de mystère dont sont auréolés la jeune femme et son enfant, dotés d'un étrange régime alimentaire. Ce qui fait aussi la force du roman réside dans le fait que l'auteur se garde bien de donner des explications, qui restent plus ou moins en périphérie. Seul compte l'ambiance et cette étrange étrangeté qui baigne l'intrigue et qui éloigne le roman de toute complaisance horrifique, malgré une entrée en matière aussi ténébreuse que viscérale. À l'occasion de la sortie d'Un enfant qui mord, nous nous sommes rapprochés de Jean-Pierre Andrevon, cinéaste, peintre, critique de cinéma, mais surtout écrivain, dans ce qui nous intéresse actuellement, le temps d'un court entretien.
Tout de suite, Jean-Pierre Andrevon au micro de Culture Prohibée.
Jean-Pierre Andrevon, donc j'ai une petite question pour commencer, que ceux qui ont déjà lu le roman pourront comprendre la blague. Alors pourquoi en voulez-vous autant à Juliette Armanet ?
Ah,
Ah, c'est pas que je lui en veux, mais je pense que j'ai dû écrire ça d'une part comme il faut du temps entre le moment où un bouquin est écrit puis le moment où il est édité, où il est publié et où les lecteurs peuvent en prendre connaissance. J'ai un petit peu oublié, mais c'est vrai qu'il m'arrive d'être un petit peu remonté contre les exagérations, disons, du phénomène MeToo, quoi. Et alors, des fois, j'ai comme ça, je me dis, allez, on va faire une petite pointe qui amusera les lecteurs, quoi. Mais c'est, encore une fois, c'est pas méchant. C'est un trait d'humour que je mets dans la bouche, donc, de mon héroïne, mais qui vient effectivement de moi. Et puis voilà, quoi. C'est pas très grave. C'est un petit détail, disons, un détail de l'histoire.
Justement, ça me permet de rebondir un peu, vous parlez de MeToo, mais est-ce que votre roman, Un enfant qui mord, ne serait-il pas aussi un regard sur une certaine forme de masculinité ?
Je sais pas, c'est aussi une forme sur le phénomène de la naissance, le phénomène de la prolifération de l'espèce humaine, parce que c'est vrai que j'ai quand même un petit sentiment pas très agréable contre les bébés qui prolifèrent, qui vont devenir des hommes et que vont devenir tous ces hommes. Donc c'était ça en fait le bouquin, c'était les bébés qu'on considère comme des petits poupons, petits poupons roses tout mignons, s'extasient dans les berceaux. Moi j'ai voulu mettre en scène un bébé qui mord et qui tue, quoi, voilà, en fait c'est ça en fait. Qui peut très bien rebondir sur le l'armement ou l'armement démographique dont on parle, dont un certain président parle beaucoup en ce moment, quoi. C'est assez amusant, enfin voilà. Je suis un bonhomme qui écrit, donc un bonhomme masculin. Est-ce que je suis machiste ou pas, j'en sais rien. Moi j'ai beaucoup aimé créer ce personnage, cette femme très mystérieuse, très belle, très érotique, et puis qui cache effectivement quelque chose de très sombre dans son projet, quoi, voilà. Et puis c'est une histoire, hein, c'est un roman, voilà, c'est pas un traité féministe ou antiféministe, c'est un roman que j'ai voulu traiter de cette manière-là, alors qu'en général les méchantes héroïnes sont des femmes vieilles, laides, des sorcières. Moi j'ai voulu le traiter avec comme héroïne une très belle et très jeune fille, mystérieuse, voilà.
En montant dans les hauteurs du Gore des Alpes, en quoi aviez-vous la volonté de renouer avec vos écrits de la collection Angoisse ?
C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup, on me considère souvent comme un auteur de science-fiction, moi je me considère comme un auteur tout court qui écrit dans des genres très différents. Et c'est vrai que ce fantastique-là, qui part de la réalité, quoi, qui part de situations très quotidiennes, j'aime bien ça. Et la preuve, c'est que mes tout premiers romans, effectivement, qui étaient signés à l'époque Alphonse Brutsch et qui paraissaient dans la collection Gore, dans la collection Angoisse, pardon, du Fleuve Noir, j'ai toujours eu déjà un regret quand cette collection s'est arrêtée, parce que ça m'a plus permis d'écrire ce genre de roman, et j'en ai écrit quelques-uns, quelques autres un petit peu par la suite, aussi des nouvelles. Et là, quand j'ai appris ou quand j'ai fait la connaissance avec cette collection Gore des Alpes, puisque je suis moi-même un alpin, je me suis dit, c'est l'occasion d'écrire un nouveau roman dans le style ou dans l'esprit de ce que j'écrivais il y a 40 ans ou 50, je ne sais plus, dans la collection Angoisse, quoi, voilà.
Vous venez de le dire, vous vous considérez comme un écrivain, un auteur qui a touché plusieurs genres, du polar, de la science-fiction, de l'aventure. Mais le fantastique, quelle place il occupe chez vous ? Qu'est-ce que ça signifie, le fantastique, écrire du fantastique ?
Ça signifie que de délivrer ses fantasmes ou ses angoisses ou ses peurs, encore une fois, dans des situations très banales que je pourrais presque vivre, quoi. Je pourrais très bien un jour m'arrêter la nuit en panne de voiture dans un village un petit peu étrange et inquiétant, et puis être dans une chambre, voir la porte s'ouvrir et une belle jeune fille de 18 ans se glisser dans mon lit. Quand on écrit du fantastique, encore une fois, c'est, C'est des fantasmes qui peuvent être effrayants, qui peuvent être désirables aussi. Et puis c'est une question de sujet qu'on trouve, quoi, un écrivain. Moi, je suis d'abord avant tout un raconteur d'histoires. J'essaie de raconter des histoires qui, j'espère, peuvent intéresser, voire passionner les gens. Donc il faut que je trouve un sujet qui, voilà, qui me permet d'aborder comme ça, de faire glisser tout doucement le lecteur et moi avec lui, d'un quotidien a priori banal jusqu'à fantastique, qui peut aller jusqu'à l'horreur, pourquoi pas, voilà.
La partie qui m'a le plus plu dans le livre, c'est la première partie qui se déroule dans un village désert la nuit. Et j'ai remarqué, j'ai pas tout lu de votre œuvre, mais j'en ai quand même lu pas mal. J'ai remarqué que c'est un motif récurrent chez vous, les villages déserts qui semblent être pris dans le passé. Comment expliquez-vous ?
Ben, je sais pas, ça vient aussi de ma vie en général, de mes balades. Moi, j'aime bien me balader dans la campagne, dans des endroits déserts, rencontrer des baraques abandonnées ou des ruines, ou c'est quelque chose qui vient de mon enfance, de ma jeunesse, et qui m'a jamais quitté, quoi. Et c'est vrai que, personnellement, rien ne me fait plus plaisir si je me balade en forêt ou dans un endroit un petit peu isolé, comme ça, puis brusquement, au détour, ou entre deux arbres, ou dans une clairière, trouver une vieille baraque abandonnée, vraiment j'adore ça, quoi, d'abord esthétiquement, c'est vrai, et puis avec tout le mystère que ça peut cacher, quoi. Donc c'est un point de départ, disons, très, très favorable pour broder une histoire là-dessus, quoi. Et c'est vrai que j'ai employé ça souvent, mais même ça peut être un petit village, mais ça peut être aussi une grande ville déserte, ce que j'ai traité aussi dans Le Monde Enfin, par exemple, où tous les gens sont morts, à ma grande satisfaction, et où le héros se promène dans des ruines qui retournent à la végétation avec les animaux qui se promènent dans les rues, comme ça. C'est quelque chose qui m'a toujours accompagné, qui me plaît par le mystère qui se dégage, mais l'esthétique aussi qui se dégage de ruines au milieu des arbres. C'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup, quoi.
Il y a quelque chose qui m'a interpellé dans votre roman Un enfant qui mord, c'est que vous alternez entre une écriture à la première personne, à travers des extraits du journal du personnage principal, Yann Flandrin, et des passages à la troisième personne. Mais on est toujours du point de vue du personnage principal. Pourquoi avoir opté pour cette narration ?
Ben parce que ce qui m'a semblé intéressant, c'était que le personnage principal, effectivement, est un personnage assez passif, quoi. Il lui arrive des choses. Et moi, quand j'écris, je me mets toujours à la place du personnage principal. D'ailleurs, c'est vrai que c'est toujours un personnage masculin. J'aurais peut-être un petit peu de mal à me mettre dans la peau d'une femme, ou d'une jeune femme, ou d'une femme un peu plus vieille. Et je me mets et l'écrivain en moi se met à sa place et dit, mais bon, qu'est-ce qui va arriver ? Il peut être surpris, il peut être effrayé, il peut, voilà, quoi. Et alors, pourquoi j'ai opté pour cette séparation, enfin, ce balancement entre la première personne du singulier et l'autre ? Parce que ça me semblait intéressant que le personnage s'exprime lui-même, effectivement, dans les carnets qu'il écrit, ce qui permet de permettre au lecteur de bien savoir avec qui il a affaire. Et puis, d'un autre côté, de reprendre un petit peu de distance, comme la caméra qui s'éloignerait du gros plan pour faire des plans généraux. Et voilà, et voir ce que le personnage d'un peu plus loin, quoi, ce qui va arriver. Mais c'est un truc d'écrivain, je veux dire, c'est toujours difficile, une fois qu'on a écrit un livre, de préciser ou d'apprendre à quelqu'un d'extérieur pourquoi on a fait ça exactement, quoi. L'écriture, c'est quelque chose de vraiment immédiat pour moi. J'essaye d'écrire de la façon la plus naturelle possible, d'une part, la plus évocatrice possible. Et puis après, une fois que c'est fini, je me dis, bon, ben, je passe à autre chose, quoi. Voilà, en quelque sorte.
Peut-on s'attendre à un autre roman dans la collection Gore des Alpes, signé Jean-Pierre Andrevon ?
Ben, peut-être pas Gore des Alpes, mais il y a une autre collection qui lui ressemble beaucoup, qui s'appelle Carnage, où j'ai pris également J'ai pris contact avec les responsables en leur disant « Ah ben tiens, j'ai écrit un Gore des Alpes, est-ce que ça t'intéresserait que je fasse un autre roman fantastique pour toi ?» Alors oui, d'accord. Donc oui, ça fait partie de mes projets entre court et moyen terme, parce que je suis en train d'écrire un roman en ce moment de science-fiction, donc je reviens à mes premières amours. Mais l'existence de ces deux collections, effectivement, qui publient des romans fantastiques assez courts, me permet de retourner, encore une fois, 30 ou 40 ans en arrière, au bon temps de la collection Angoisse, et puis d'écrire ce genre de bouquin, quoi. Ça sera sur l'anthropophagie, cette fois, mais bon, j'en dis pas plus.
Nous remercions Jean-Pierre Andrevon, mon cher Thomas, pour ce retour sur Un enfant qui mord, donc paru dans la collection Gore des Alpes de l'ami Philippe Battaglia, que nous remercions d'ailleurs également. Eh bien, nous rappelons à toutes nos auditrices et auditeurs que pour vous procurer donc les derniers volumes de la collection Gore des Alpes, il suffit de vous connecter sur le site de Gore des Alpes, tout simplement goredesalpes.ch. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec les films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Thomas Roland, dit le loup-garou Picard, and the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine.